Les cours du Collège de France, Wajdi Mouawad, chaire l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Bonjour. Les kiosques à journaux grecs sont remplis d'apocalypses, que ce soit à propos de la vie sexuelle de telle star de la télé-réalité ou des déboires amoureux de telle princesse. Il pleut des apocalypses dans la presse à scandale grec. Apocalypse par-ci, apocalypse par-là. À Athènes, l'eschatologie semble être une passion pour le commun des mortels. Et on éprouve une réelle admiration envers un peuple qui ne lésine en rien pour que tout, même une chose aussi futile que la dernière coupe de cheveux du prince William, soit considérée avec une telle ferveur spirituelle. D'où notre déception lorsqu'un chauffeur de taxi nous fait comprendre que, en fait, non, que ce n'est pas ça, que apocalypse, en grec, signifie simplement révélation dans le sens de scandale, de ragot ou de potinage, si vous voulez. Alors on entre à l'hôtel, abasourdi par une telle apocalypse, on se jette sur une Bible, on ouvre le Second Testament, on se rend au dernier livre et tout à coup, miracle, si je puis dire, les quatre chevaliers du potinage, dans le livre du potinage de Saint Jean, nous apparaissent tout à coup bien moins terrifiants. Alors si l'apocalypse signifie révélation, combien d'apocalypses avons-nous au cours d'une seule journée ? Combien de choses sortent de l'ombre pour apparaître à la lumière de notre compréhension ? Ô lumière, je te vois pour la dernière fois, hurle Œdipe, se crevant les yeux après avoir eu la révélation sur ses origines. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard, est-il écrit au verset 31 du chapitre 24 dans l'évangile de Luc, à l'instant où les deux disciples d'Emmaüs comprirent qu'ils avaient, sans le reconnaître, cheminé le jour durant en compagnie du Christ. Le choc de la révélation fut à la hauteur de leur aveuglement. Choc identique par suite du même aveuglement d'une partie des pays européens en ce matin d'il y a 3 ans face à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Révélation partout. Apocalypse toujours. Dans le grand et dans le petit d'ailleurs, dans l'historique comme dans l'intime, elle se croyait aimée et à la faveur d'un indice ridicule réalisa en un instant qu'il n'avait eu de cesse de la tromper. Au détour d'une phrase, il comprit qu'il n'était pas le fils de son père. Arrivant à son lieu de travail, il réalisa qu'il avait été remplacé. Il ouvrit le journal et lut qu'il n'était plus ministre. Les apocalypses s'enchaînent, futiles ou terribles, et forment le collier des fracas qui se tissent tout au long de nos jours. Et dans cette collision frontale où la révélation nous projette contre le mur de la vérité, eh bien, il n'y a jamais de coussin gonflable pour amoindrir le choc. Foudre au milieu d'un ciel bleu, la violence de la révélation laisse celui sur qui elle s'abat si seul face à la vérité qu'en un effroyable instant, il voit s'éteindre toutes les étoiles, chuter tous les astres du ciel. Obscurité, obscurité. La vérité aveugle et la lumière plonge brutalement celui qui la fixe dans un abîme de ténèbres. Voir peut avoir de telles conséquences qu'il peut mettre à bas des cités entières. Il suffit qu'une chose soit vue pour qu'une population se soulève. Voilà pourquoi, à la force du verbe voir, le pouvoir oppose toujours la censure. Contrôler l'information, contrôler les images, les manipuler, les dévoyer. Le pouvoir politique craint toute puissance qui échappe à son autorité. L'art et la recherche, parce qu'ils révèlent et qu'ils donnent à voir des visions et des connaissances qui transforment et bouleversent une époque, sont une puissance qui a toujours effrayé le pouvoir. Celui-ci n'a de cesse de se méfier, autant des artistes que des chercheurs, et n'a de cesse de vouloir les neutraliser par tous les moyens possibles. Nomination à des postes prestigieux, témoignage d'admiration par les prix et les décorations. On aura beau se dire qu'en Occident, les institutions sont indépendantes du pouvoir, dans la psyché humaine, la soif de reconnaissance et le prestige fonctionnent comme de jolies chaînes passées au cou des chiens. Le pouvoir le sait et n'a de cesse de s'en servir pour pousser artistes et chercheurs à la trahison des clercs, pour reprendre l'impitoyable titre de Julien Binda. Un artiste, ça s'achète, ça se récupère, un chercheur aussi. Et quand l'artiste et le chercheur résistent, il y a d'autres moyens. L'essentiel pour le pouvoir est de savoir ce qui se trame dans l'atelier et dans le laboratoire. En ce sens, qu'est, croyez-vous, une subvention, si ce n'est qu'une forme de torture déguisée pour amener artistes et chercheurs à montrer patte blanche ? Remplissez le formulaire et répondez. Quoi, quand, avec qui et pourquoi ? Que ce soit par la raison budgétaire, par la raison morale ou celle relevant de l'ordre public, le pouvoir est obsédé par le besoin de contrôler les artistes et les chercheurs. Il ne peut pas laisser le premier venu faire voir le monde autrement et ramener chacun à la liberté de son regard. À hauteur d'une société entière, ça deviendrait explosif. Voir est une affirmation de soi. Voir est une affirmation de ses rêves, de ses utopies. En ce sens, les yeux sont la matrice de la révolte. Tout pouvoir le sait. Devant les milliers de photographies montrant les tortures pratiquées par les prisons de Bachar al-Assad entre 2011 et 2013, des procureurs aguerris ont pu témoigner des horreurs pratiquées par les bourreaux syriens. Les sévices, tout aussi effroyables les uns que les autres, forcent à croire l'incroyable. Et si ces photographies démontrent la diversité des violences, une constance pourtant s'affiche d'une image à l'autre. Toutes les victimes ont eu les yeux arrachés et laissent voir un visage aux yeux, aux orbites évidées, deux trous noirs, deux marécages dans lesquels l'imagination elle-même finit par s'éteindre, les mots par disparaître et les lettres de l'alphabet par être réduites en poussière. Des multiples révélations ou des multiples apocalypses auxquelles nous faisons face au cours de notre existence, celle qui survient à l'adolescence est sans doute l'une des plus bouleversantes, une des plus riches aussi, même si elle peut être, chez certains, la source d'inconsolables douleurs. Tout à coup, un adolescent se tourne vers vous et vous pose cette question. Qu'est-ce que c'est la magie ? À la gravité de l'expression, à la profondeur du regard, à la tristesse qui lui confère une sorte de détachement obscur, vous comprenez que cette question cache chez votre jeune interlocuteur un gouffre, un effondrement au noyau de son esprit. Qu'est-ce que c'est la magie ? Oui, qu'est-ce que c'est la magie ? La magie, répète-t-il, je n'ai plus envie de rien. Et jour après jour, les visions que j'avais enfant fondent ce trou, et à travers ces trous, je commence à entrevoir ce que ça peut être la vie, je veux dire par là la vie adulte, et franchement, ça ne donne pas envie. Alors, comment répondre sans mentir ? Qu'est-ce que c'est la magie ? Avant l'adolescence, cette question ne se posait pas. Pour l'enfant qui grandit dans un environnement sain, tout est magie. Même les cauchemars nocturnes relèvent de la légende. Ils font à peine miroiter qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame derrière la membrane de la magie, mais celle-ci tient bon. Et la petite souris passe fidèlement à chaque dent de lait. Pour que la membrane se déchire, il faut une horreur, d'une bestialité qui soit d'un niveau inconcevable à l'esprit de l'enfant. L'événement alors perfore la membrane, la traverse et parvient jusqu'à l'enfant pour se révéler à lui comme un inconcevable, d'autant plus violent que l'enfant l'accueille avec toute l'ouverture, la confiance, la pureté que son cœur est capable. L'inconcevable alors le pénètre, c'est un viol. Et la magie est détruite. Quand cela arrive, l'enfant cesse de grandir. Les années auront beau passer, il gardera l'âge qu'il avait au moment de cette déchirure. La magie cède alors la place à l'inconcevable. L'enfant ne pouvait pas même figurer qu'une telle violence pouvait exister. Il ne pouvait pas même se l'imaginer, ni imaginer qu'en lui sommeillaient de pareilles émotions. Son esprit est cramé. Il touche à une folie trop grande pour lui. Alors, il peut s'agir d'un viol, objet d'un inceste ou non. Il peut aussi concerner le corps des autres, faisant de l'enfant le témoin d'une brutalité qui surpasse sa capacité à concevoir un tel événement. Un massacre à la machette, un massacre au couteau, au fusil. L'obus tombe, il dévaste l'épicerie, Il explose les corps aux quatre coins de la rue. Il retourne les voitures comme des insectes. Il projette les chiens dans les arbres. Et debout, parce que trop petite pour être happée par le souffle de l'explosion, la fillette tient encore la main arrachée de sa mère, dont le reste du corps a été soufflé par l'explosion. La fillette tremble, grise de poussière. Elle a 7 ans. Les années passeront. Elle se reconstruira. Elle se reconstruira. Mais jamais elle ne s'en remettra. Jamais. Et au jour de sa mort, vieille femme entourée de ses enfants et petits-enfants, elle aura encore 7 ans, la main arrachée de sa mère dans la sienne. On ne se console pas de certaines choses pénétrées trop profondément dans l'intimité de l'enfance. On apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec en les déployant autrement. Déchéance insupportable d'un père, violence effroyable contre la mère, meurtre d'un professeur, mort d'un camarade, quand la terreur surgit brutalement, l'enfant se voit épinglé à jamais contre la planche entomologique de cet instant de révélation. Il ne savait pas que ça existait. L'inconcevable lui est tombé dessus, lui autant jusqu'au langage. Il est extrait du monde, jeté hors de la cité, coupable d'avoir vu trop tôt. Dévoré par l'événement, l'enfant s'est fissuré tel un vase qui, sans se briser, se fissure à la suite d'un choc. Le vase reste beau, mais ne peut plus être rempli d'eau pour recevoir les magnifiques fleurs. Alors on y mettra les fleurs sèches, on y mettra les fleurs mortes. Il deviendra réceptacle de ce qui a été, mémoire d'un vivant disparu. On peut encore l'admirer pour ce qu'il est, la mémoire de ce qui a été perdu. On peut même l'aimer pour ça. Mais à jamais, il se sait fissuré. La magie s'est trouée et dès lors, l'enfant prend conscience de son existence. La réalité est dès lors dominée par l'inconcevable, par la possibilité permanente du surgissement de l'inconcevable. Mais il arrive, comme prenant le malheur par surprise, comme une sorte d'espièglerie, que la magie refasse apparaître ses éclats d'or et souvent de manière impromptue et incompréhensible. Nous connaissons tous ces moments étrange quand, mais alors sans raison apparente, une joie immense vient nous inonder. Une joie venue de nulle part. On marche dans la rue, préoccupé par les questions du quotidien, et sans raison, une joie indescriptible nous traverse, bouffée de bonheur. Tout à coup nous apparaît si léger et si fabuleux. Tout s'élève comme au-dessus des nuages. Ces instants fugaces, incompréhensibles, ne sont peut-être que les restes d'une magie qui, depuis longtemps, a fondu sous le soleil ardent de la raison. Se trouant de plus en plus, laissant place de plus en plus à la rugosité de la réalité, on se met à prendre conscience de l'existence de cette magie à la faveur de ces fragments de bonheur. On peut alors comprendre la répulsion d'entrer dans la vie adulte chez beaucoup d'adolescents pour qui la petite souris n'est plus qu'une chimère et la vie adulte une impossibilité. Alors, entre ces deux gouffres, devant l'adulte qu'il va irrémédiablement devenir, terrifié par ce qui est à ses yeux pas moins qu'une condamnation, l'adolescent, à l'instar d'Oedipe, crie « Ô lumière, je te vois pour la dernière fois !» La première cause de mort chez les jeunes Européens reste le suicide. Car oui, comment accepter ? Comment accepter de perdre le sublime pour devoir se contenter de l'ennui ? Comment fait-on pour voir qu'on est en train de rater sa vie ? Demande l'adolescent pétrifié. Comment ? Parce que bon, quand on l'a raté, on l'a raté, mais quand on est en train de la rater, comment on fait pour le voir, pour en avoir la révélation, l'apocalypse ? Comment on fait quand on comprend qu'on vit comme s'il y avait un brouillon à la vie et qu'après, il y a le propre ? Eh ben non, le brouillon, c'est le propre. Quelle angoisse ! Je veux rester un enfant toute ma vie. Oui, noble objectif. Mais comment faire pour que ce ne soit alors pas par peur face aux défis qu'impose la vie adulte, mais au contraire, parce que, après avoir fait le tour de ce qu'être adulte suppose, de labeur, après s'être prouvé à soi et aux autres qu'on est en mesure de porter sa vie à bout de bras, de suer, de trembler, de rater, d'échouer, de se relever pour continuer, de faire face, de faire front, retourner alors à l'enfance, non pas par incapacité d'être un adulte, mais au contraire, par choix. La révélation n'est donc pas seulement une chose que l'on subit. Elle invite à l'action. Être tigre courant vers la proie, agir. Faire du verbe voir un acte d'affirmation. L'écriture est en quelque sorte l'affirmation du verbe voir. Tout comme il est préférable de redevenir enfant par choix, Il est préférable d'observer la beauté non pas par incapacité d'accepter le réel, non pas comme une fuite de la violence du réel, mais au contraire, comme un choix qui vient de ce que, après avoir fait le tour de ce que l'on nomme la réalité, on choisit de voir cette réalité selon un miroitement différent. Il n'y a qu'à lire pour cela « Paysage avec figure absente » de Philippe Jacotet pour faire cette expérience du passage de la réalité vers la poésie, non pas par aveuglement ou par refus de la réalité, mais au contraire, par choix de la regarder autrement, ou plutôt de la regarder avec une telle acuité, avec une telle attention, que soudain, posant sur elle un regard si amicalement impitoyable, tout ce que la réalité peut avoir d'abject devient poésie. C'est de l'alchimie au mot magique du grand Jacotet. Il ne s'agit donc pas d'être dupe de ce que l'on voit, mais au contraire, de se souvenir que, par la force du regard, le verbe « voir » ouvre le champ du poème. La réalité n'est donc pas à fuir. Au contraire, elle nous invite à la regarder de face. La réalité nous invite à la nommer avec une précision saisissante. Elle a besoin de nous. La réalité n'a pas besoin d'être niée, elle n'a pas besoin d'être jugée. La réalité est sauvée par notre regard. Qu'est-ce que la beauté d'un bois sauvage dans la lumière du matin? Eh bien, c'est une pluie de photons parvenus d'une sphère de gaz incandescent nommée Soleil, située à une distance de 150 millions de kilomètres, passant à travers des végétaux dont les premiers ancêtres remontent au Silurien, il y a de cela 300 à 400 millions d'années, et qui ont peuplé la Terre bien avant l'apparition des premiers vivants. Un phénomène physique demeure un phénomène physique s'il n'y a pas une conscience qui le regarde et qui joue avec. Les déserts ambrés de la planète Mars et la pâleur rougeâtre de leur ciel sont devenus sublimes à l'instant où Curiosity, prolongement des yeux de l'humanité à plus de 62 millions de kilomètres de la Terre, avec ses appareils photographiques et ses caméras numériques, en a dévoilé la beauté. Auparavant, ces paysages n'étaient que phénomènes inaccessibles, lumière astrale, territoire extraterrestre solitaire. Il faut donc que des photons bombardent des rétines, active le lobe d'un cerveau à travers le nerf optique et rejoigne une conscience pour que soit reconnue, proclamée et admirée la beauté d'un boisé dans la lumière d'un matin d'hiver. C'est le jeu incessant entre l'œil et le monde. On ouvre les yeux et le monde est là, donné à voir. Et aucune douleur. Voir. Voir. C'est magie, magie absolue de l'œil. L'œil sans quoi rien ne serait possible pour la lumière, et inversement. Entre l'œil et la lumière, il s'agit bien d'une histoire d'amour, commencée à l'instant de leur rencontre. C'est un coup de foudre, majuscule, un surgissement. La vision est liée à la révélation, et la révélation à la parole. Les choses sortent de l'ombre, ils se jettent dans notre regard, et la parole nomme. C'est bien parce qu'il a élucidé l'énigme en la nommant qu'Œdipe a vu. Et c'est pour nommer qu'il cherchait si avidement à voir. Dans les verbes qui conjuguent l'écriture, celui du verbe « voir » y tient la place terrifiante de la douleur. Mais sans lui, il ne serait pas possible de sortir de cette douleur. Il faut bien voir pour être capable de nommer, et nommer, ce n'est rien d'autre que d'aller vers la vision. Mais voir est dangereux. C'est peut-être pour cette raison que, contrairement aux oreilles, nos yeux ont la capacité de se fermer grâce à ce cadeau que sont nos paupières. Notre corps semble nous dire « tout n'est pas bon à voir ». Il faut parfois attendre le bon moment. Entre l'œil et le photon, c'est un lien primordial qui ne cesse de s'inventer depuis la nuit des temps. Mais que faisait la lumière avant qu'un œil ne l'admire? Elle qui est antérieure à toute chose. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle régnait solitaire sur un univers indifférent à sa présence. Elle le modelait par ses énergies colossales composées de milliards d'étoiles, naissantes et mourantes, sans que jamais, jamais, elle, la majestueuse, la sublime, ne soit contemplée, sans que jamais une structure sensible ne lève vers elle un regard amical. La lumière, un enfant jouant seul dans la chambre froide de l'univers. Une chambre dont l'expansion n'avait de cesse de la contraindre à la plus abyssale des solitudes. Alors, s'il est totalement, totalement fantaisiste de penser que la vie sur Terre est née du seul désir de la lumière d'être célébrée par une nature douée de vision et avec laquelle elle pourrait jouer et nouer une relation charnelle, une vie qui saurait la délivrer de sa solitude, il est cependant beau de l'imaginer. Beau de croire que la vie, au fond, a résulté de la volonté de la lumière de s'arracher à son ennui, de clouer le bec à cette expansion impitoyable de l'univers, la lumière, heureuse d'exister enfin dans un œil qui la contemple et auquel elle offre la vision en retour. Ce fut un très long et très savant processus. La rencontre entre un rayon de lumière et une membrane photosensible remonte à l'origine de la vie. Alors, ce n'était pas encore un sens, mais simplement un organisme vivant dont la terminaison nerveuse était dénuée de centre. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher n'existaient pas encore. Leur apparition, des millions d'années plus tard, résulte de la coagulation d'un système nerveux en un conglomérat neuronal, préfiguration du cerveau, survenu chez un ancêtre, une sorte d'éponge, vivant dans la mer de l'époque du précambrien, voilà 600 à 550 millions d'années. L'éclosion de ce centre névralgique, cet opérateur interprétant les informations et donnant des ordres aux membres moteurs, a contribué au développement de capteurs susceptibles d'appréhender la nature du monde qui l'environne. Ces capteurs sont les sens dont nous sommes encore dotés aujourd'hui et dont nous nous servons notre vie durant, dès l'instant où, baignant dans l'eau amniotique, nous entendons la langue de notre mère et la voix de notre père, jusqu'au terme de notre passage sur Terre, quand, s'éteignant, silence et obscurité signent notre passage dans le royaume des morts. Au cours de notre existence, la vue, pour ceux et celles qui n'en sont pas dépourvus, bien sûr, est, de tous nos sens, celui dont nous nous servons le plus. Si les premières créatures animées apparues sur Terre avaient pour organe visuel un nerf optique recouvert d'un pigment et surmonté d'une membrane transparente, l'histoire de la vie, au fil de l'évolution théorisée par Charles Darwin, a transformé l'œil en un instrument d'une perfection stupéfiante que possède aujourd'hui tout membre de la classe des articulés. Chez l'être humain, la formation embryonnaire de l'œil débute dès les premiers jours après la fécondation. Il prend forme grâce à l'emboîtement de l'ectoderme, cristallin, cornée, iris, rétine, avec le mésoderme, responsable des muscles oculaires. Se reconnaissant entre eux, ectoderme et mésoderme se courbent l'un vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur, pour s'adjoindre et former cet ensemble que l'on appelle l'organe de l'œil, lequel ira ensuite en sa cavité osseuse s'arrimer au nerf optique. Lente attraction dans le ventre fécondé de toute femelle, comme si le Brésil venait épouser la côte occidentale africaine, renouant entre elles leurs parties séparées par la dérive des continents, effaçant l'océan, le réduisant à néant, réconciliant l'Amazonie avec les forêts vierges du Ghana, offrant aux oiseaux sauvages, haras et perroquets, des jardins nouveaux où chanter ensemble et mêler les couleurs de leurs plumes. Sans lumière, donc, nul besoin de Dieu. C'est là une vérité ancienne prononcée par des sages, aussi éloignés de Sophocle que Sophocle l'est de nous. Pour les Grecs de cette époque, archaïque, la nuit était véritablement obscure. C'est-à-dire concrètement, il n'y avait pas de lampadaire, pas d'électricité. Alors jour après jour, nos ancêtres faisaient l'expérience des ténèbres de la nuit lorsque le soleil s'effaçait derrière l'horizon. La lumière durait le temps que dure le jour. Elle révélait la nature, les visages. La lumière était la vie. Être vivant signifiait avoir la capacité de voir la lumière du soleil quand la mort était le domaine des ténèbres éternelles. L'Hadès n'est donc ni un paradis, ce n'est pas un enfer, ce n'est pas le jugement dernier, ni la résurrection, et aucun dieu jaloux ne le hante, non. L'Hadès, c'était l'obscurité éternelle. Mourir signifiait quitter la lumière pour rejoindre à jamais les ombres. Et telle était la tristesse de la mort, c'est d'être arraché à l'enchantement, être séparé de la lumière, ne plus voir un arbre, la mer, les visages des êtres chers, un fruit, la magie de la vie. Pour les Grecs de cette époque, et même pour ceux de la période classique, celui qui, de son vivant, était frappé de cécité, était donc perçu comme une terrifiante contradiction. C'était un vivant, mais errant déjà dans les ténèbres de l'Hadès, c'est-à-dire un être entre deux mondes, un vivant dans l'obscurité, un vivant mort ou un mort vivant, un zombie, dirions-nous aujourd'hui. Ainsi, après son exil, Œdipe faisait peur, non pas à cause de ses crimes, mais à cause de sa cécité qu'il s'est infligée lui-même en se crevant les yeux. C'était une folie inconcevable de se priver de la lumière du jour alors qu'on est encore vivant. La vie est si courte. Comment peut-on écourter encore plus son lien avec la vision ? Là était la folie d'Œdipe. Dans cet aveuglement qui le condamne à marcher sur les routes et à dormir au milieu des ordures, il est vu comme le négatif radical du devin, ce sage qui, comme Tirésias, bien qu'aveugle, est animé par la lumière prophétique, la clairvoyance divine qui lui permet de voir l'avenir, la survoyance. Tout pour les Grecs était donc mesuré à l'aune de la lumière. Soleil, hurle le premier cœur de Antigone de Sophocle. Soleil, réapparu, soleil, soleil réapparu, plus radieux que jamais, pour frapper de tes raies les sept portes de Thèbes. Œil, dévoilé dans l'or du jour, tu t'es levé au-dessus des eaux de Dircée. Voilà le début, le premier cœur de Antigone, le retour du soleil. Quel soulagement de le voir poindre, nous sauvant de l'obscurité éternelle. Sans lui, plus besoin de voir, parce que la lumière montre, le soleil est cet œil implacable qui dévoile tout, qui révèle tout. Sa lumière révèle au regard, canicule de la vérité. Elle indique ce qui y est, impitoyablement. Elle est en ce sens l'essence de la connaissance. Elle montre la réalité. Elle dit c'est ça. Lumière et connaissance, donc, vont de pair. La connaissance fait la lumière. Elle est celle qui éclaire l'ombre d'un crime. En Grèce, c'est à Delphes, au temple d'Apollon, que se célèbre l'acte de la connaissance. C'est le lieu même de la lumière. Il est le lieu où réside l'oracle. Or, le temple de Delphes a été bâti sur la colline qui est sans doute la plus exposée à la lumière du soleil. Et là, il y a un lien physique immédiat pour celui qui se rend vers l'oracle. Il grimpe dans la canicule pour entrer dans l'ombre du temple où l'oracle lui sera délivré. Et l'oracle est lié intimement à la connaissance. Le visiteur en est aussitôt frappé puisque sur le fronton du temple de Delphes, il lit cette inscription gravée qui invite chacun à faire éclore vers le jour ce qui est encore caché dans la nuit de son esprit. Connais-toi toi-même. Ils ne sont pas gravés sur le fronton du temple d'Asclépios, dieu de la médecine, ces mots sacrés et mystérieux, mais bel et bien à l'entrée du plus magique des temples. Connais-toi toi-même n'est donc pas une invitation à l'introspection psychanalytique, mais un avertissement brutal. Ça dit ceci, toi qui entres en ce lieu, n'oublie pas ta condition de mort de mortel et ne tente pas de t'élever au-dessus d'elle. Tu n'es pas un dieu. Et tâche de t'en souvenir à chaque instant. Ne présume pas de toi, car tu ignores de quoi demain est fait. Connais ta mesure. Ne va pas juger celle des autres. Ne condamne pas celui qui a commis une faute, car tu risques de te confronter aux condamnations que tu as prononcées contre lui le jour où tu commettras à ton tour le même crime. Et ne dis jamais que tu n'en commettras pas de pire. Ne t'en cache pas dans ce que tu ne connais pas de toi-même. Sois prudent. Ne te sous-estime pas par fausse humilité, ni te surestime par orgueil. Sois toujours au cœur de ta propre cible, mais n'oublie pas que la cible est mouvante. Ne confonds pas ton identité avec ton origine. Ton origine est fixe, mais ton identité, jour après jour, change à ton insu. Ajuste à elle chaque instant ta mesure. Connais le rythme de ta marche. Connais la distance à parcourir pour arriver exact à l'heure entendue avec le Dieu, sans avoir à l'attendre, ni avoir à le faire attendre. Car si les dieux n'aiment pas les négligents qui arrivent en retard, ils détestent tout autant ceux qui font excès de prudence en arrivant trop tôt. Connais-toi toi-même est donc une injonction pour devenir devin soi-même de soi-même. Connais-toi toi-même comme deviens ton propre œil, soit ton propre temple, soit à la hauteur de tes yeux, n'en diminue jamais la lumière, ne la surexpose pas plus, inspire-toi du temple de Delphes. À l'image du soleil, œil qui voit tout, le temple de Delphes est lui-même un œil élevé sur une montagne offerte à la lumière qui rappelle, à travers la réverbération de ces pierres chauffées au soleil, le lieu indéfectible qui relie l'œil à la lumière à la vérité à l'oracle et l'oracle à la connaissance. Mais La connaissance est dangereuse. Dans sa manière de se révéler, elle peut devenir aisément l'inconcevable. Sa révélation peut être d'une brutalité folle. Quoi de plus dangereux que celui qui, imbu de lui-même, proclame bêtement « Moi, vous savez, je suis incapable de ne pas dire la vérité, je suis pas capable de mentir, moi, je suis incapable de mentir. » Ces gens-là, il faut les enfermer, et vite. Parce que quoi ? Par incapacité, par désinvolture, par un manque d'empathie d'autant plus misérable que ces gens-là semblent tirer une grande fierté de ce qu'ils pensent être de la franchise et qui n'est que le signe d'une stupidité crasse, ces gens sont prêts, par paresse, parce qu'ils n'ont pas l'énergie de l'attention, à débiter aux autres leurs quatre vérités sans aucune autre raison que leur absence de sensibilité et au fond un plaisir sadique à l'humiliation. Moi, vous savez, je suis comme ça, je suis cash, disent ces abrutis qui seraient incapables de supporter que quelqu'un leur serve la même soupe. Ainsi, béatement, ils vous font bouffer un fruit qui n'est pas mûr. Ah, désolé, c'est plus fort que moi, mais moi, j'ai absolument besoin que tu manges une poire, cette poire tellement amère que tu vas en chier tes tripes. Car amère peut être la vérité dite. Le Christ lui-même ne s'y est pas trompé et a gardé le silence lorsque Pilate lui a demandé « Mais qu'est-ce que c'est la vérité ?» Silence, silence. Bien sûr, silence. Bien sûr, on n'appuie pas pour rigoler sur le bouton de la bombe nucléaire juste pour voir ce que ça va faire. La connaissance est une babiole dangereuse, tranchante. Elle exige de la lenteur. Elle exige qu'on aille vers elle avec une extrême lenteur. Voilà pourquoi l'oracle au temple de Delphes était délivré toujours sous une forme incompréhensible, une énigme. C'était pour protéger celui qui la reçoit. Et cela, en cela, l'oracle devient donc labyrinthe. C'est afin pour aller lentement vers la monstruosité. Dans la naissance de la philosophie, Giorgio Colli rappelle que si la harpe est le symbole d'Apollon, Apollon, appelé aussi le dieu qui frappe de loin, qui donc frappe par décalage, car il y a toujours un décalage entre l'oracle et le temps de sa compréhension, de sa résolution, ce dieu-là avait aussi pour symbole le labyrinthe. L'oracle est donc un labyrinthe au sein duquel rôde une vérité insupportable à entendre. Il faut s'y engager si l'on désire la reconnaître, la connaître. La vérité ne se donne pas ainsi, il faut l'affronter, il faut avoir le courage de le faire. Cette difficulté à interpréter l'oracle peut être alors perçue comme une invitation à la prudence. Il serait sage de te souvenir que, tel le monstre combattu en son labyrinthe par Thésée, la vérité peut être mortelle pour qui veut l'affronter. Thésée était un héros, et c'est donc en héros qu'il a défait le Minotaure. Il te faut donc être héroïque si tu veux connaître la vérité sans périr. Or, un héros connaît sa mesure. Il ne fanfaronne pas face à la vérité, d'autant plus dangereuse qu'elle éveille chez le mortel le désir aveugle de la connaître avec avidité le plus vite possible. C'est la vitesse avec laquelle tu vas vers la vérité qui te tuera. Va doucement et prudemment et avec méfiance vers la vérité. Le labyrinthe ralentira ta course pour aller vers la révélation. Au grand prix de Formule 1 de Saint-Marin, en 1994, Ayrton Senna perd à 14h18 le contrôle de sa monoplace qui quitte la piste à 305 km/h et part tout droit dans la courbe ultra-rapide de Tamburello avant de percuter un mur de béton dans un choc mesuré à 212 km/h lors de l'impact. Ce qui a tué ce grand et merveilleux champion, ce n'est pas le mur, ce n'est pas la voiture, c'est la vitesse de l'impact. Le même mur, dans la même voiture, avec le même pilote à 30 km/h, n'aurait pas eu le même résultat. Ce n'est pas d'avoir tué son père et couché avec sa mère que Deep s'est crevé les yeux. C'est d'en avoir eu la révélation si brutalement et si violemment. L'oracle fonctionne donc comme un ralentisseur, un décélérateur. Il permet de prendre un recul. Il oblige de passer du direct au différé. Comme n'a pas cessé de le théoriser Paul Virilio dans la plupart de ses ouvrages, le différé offre le temps de la réflexion. Le direct oblige à l'instantané. Plus on bascule vers une société du direct, plus on va vite, plus on risque le fracas contre le mur d'une révélation tapie dans l'ombre. Pour regarder une éclipse du soleil, il faut se protéger les yeux. Pour observer une explosion nucléaire, il faut se protéger les yeux. Pour se voir soi-même, il faut se protéger l'âme. Ainsi, pour accéder à la connaissance, tout en ayant la protection contre sa brutalité, contre sa vitesse, Il faut se tenir en un lieu d'où voir est possible, sans que ça soit dangereux. Un lieu qui agit en quelque sorte comme un coussin gonflable. Un lieu d'où l'on voit. En grec, la vue, au sens de belle vue, de beau panorama, se dit théa. Et le suffixe pour dénoter un lieu, un endroit, se dit tron. Alors, à vol d'oiseau, un lieu d'où l'on voit se dit théatron, théâtre. Lieu au centre duquel se déroule la révélation. Mais, par le truchement du personnage sur qui tombe la foudre, un retournement miraculeux se produit. Ceux qui sont là et qui regardent, de par le caractère collectif, l'émotion de faire face ensemble à la vérité, à l'instant de l'apocalypse, peuvent voir mais sans subir. Chacun est porté par le fait d'être ensemble, de voir ensemble, permettant à chacun de faire face à sa propre vérité sans en être fracturé. Chacun meurt à travers la douleur du personnage. Chacun pleure, mais tout le monde applaudit, hurle, crie, se libère à la faveur du récit. Cet instant contradictoire, cette seconde de renversement où l'on meurt tout en restant en vie, c'est-à-dire où l'on est à la fois dans la lumière et l'obscurité de soi-même, vécu à l'unisson des autres, eh bien cela porte le nom de catharsis. Mourir de douleur pour se sentir vivant, car protégé par ce lieu d'où l'on regarde. Grandeur du théâtre, acte vivant qui s'articule autour du chant et de la parole et du récit. Par sa seule faute, son entêtement, Créon sombre dans la folie et reçoit tour à tour l'annonce, avec une vitesse folle, de la mort de son fils, de sa femme et de la perte de sa cité. Un poids trop lourd à porter s'abat sur lui. Mais c'est lui qui le regarde, de l'endroit d'où il le regarde, et protégé même s'il ressent le poids de sa propre condition. L'endroit d'où l'on voit, le théâtre, à la fois impitoyable miroir et protecteur plein de compassion pour les épreuves humaines. Le théâtre sera le piège où je prendrai la conscience du roi, se dit Hamlet, qui cherche à savoir si la vision du fantôme de son père, lui révélant avoir été assassiné par Claudius, son propre frère, est une hallucination ou non, si son intuition du meurtre de son père par son oncle est juste ou non. Il veut connaître la vérité, Hamlet. Et c'est le lieu d'où l'on voit qui va le lui révéler, car il sera, lui, dans l'ombre, à observer son oncle, regardant le spectacle. Bref, deux théâtres qui s'imbriquent, deux révélations, l'une secrète, l'autre cachée. Claudius voit se dérouler devant lui le crime qu'il a commis à travers la pièce écrite par Hamlet, et c'est un instant de révélation d'une brutalité tellement folle, comme on le dit du criminel, qui est jeté dans la lumière de son crime, puisque aussitôt incapable d'en supporter la vision, Claudius se lève et s'en va. Hamlet, voyant la réaction de son oncle, a la révélation que ce qu'il a perçu est vrai. Le théâtre comme lieu de révélation, avec la fiction pour lunettes de soleil. L'écriture est donc intimement liée au verbe « voir », qui est intimement lié à la révélation, qui est intimement lié à la connaissance, qui est intimement lié à la vérité. Écrire, c'est donc dire vrai, mais par le truchement du mensonge et de se mentir vrai, de la fiction. Ce n'est pas vrai, mais c'est comme si c'était vrai. Pour que ce vrai qui n'est pas vrai puisse opérer, charge donc au conteur de poser la trame sur laquelle va s'écrire la réalité du récit. Charge à lui de la déployer le long des événements qui vont faire avancer son récit. Mais comment ? Selon quelles règles ? Prenons un visage humain. Pour qu'un visage humain soit nommé visage humain, en tout cas reconnu pour tel, celui-ci doit avoir un minimum syndical, un front, deux yeux, un nez, une bouche, des joues, des oreilles. De la même façon, à l'image de nos existences régies par les dimensions de temps et d'espace, un récit est régi par ces mêmes dimensions, temps et espace. Nous voici au Collège de France en ce mardi 25 février 2025. C'est la réalité, certes, mais au fond, on s'en fiche de la réalité, puisque nous pourrions tout aussi bien dire, tenez-vous bien, imaginons que nous sommes au Collège de France un mardi 25 février 2025. C'est tout aussi vrai, même si c'est vrai. Mais ça aurait été tout aussi vrai, même si cela avait été faux. Qui que nous soyons, réel ou fictif, nous sommes toujours quelque part en un temps donné. Allô, chérie, où es-tu ? Toujours au bureau, je vais finir très tard, ne m'attends pas pour dormir, dit-il depuis l'hôtel où il était allongé auprès de Marie-Philippine. Bon. Mis à part ce que ça signifie, il faut bien être quelque part, à l'hôtel, au bureau ou dans les bras de Marie-Philippine, que ce soit vrai ou faux, il faut être quelque part. Celui qui dirait « Non, non, je suis nulle part », soit il est fou, soit il est mort, soit il n'existe pas. Ainsi, De Homère jusqu'à Virginie Despentes, on ne sort pas de ce cadre résumé génialement par Miguel de Cervantes dans la première phrase de son Don Quichotte. Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un hidalgo de ceux qui ont une lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse. Alors, en termes mathématiques, cela donne la chose suivante, une dimension Y, un lieu, le village de la Manche dont je ne veux pas me souvenir du nom, une dimension X, quelqu'un, un hidalgo, X et Y posés tous deux sur la flèche T du temps, il y a longtemps, et le récit qui suivra consistant à raconter les événements, c'est-à-dire les verbes qui sont survenus à cet X et en cet Y le long de l'axe T. Qu'importe comment les choses sont tournées, un récit s'articule toujours autour de ces quatre dimensions, lieu, sujet, temps, verbe. En un lieu donné, dans un temps donné, quelqu'un lui est arrivé un événement. Le talent, le style, l'imagination, la verve, l'inventivité en découlent. Mais pour qu'il puisse avoir un visage, un récit est nécessairement porté en ces quatre dimensions. Le cinéma l'a bien compris, lui qui, dans son écriture scénaristique, indique en prémisse de chaque scène, inévitablement, le lieu, le temps, le verbe, l'action, pour qu'ensuite le verbe et l'action puissent être décrits. Intérieur, matin, salle Marguerite de Navarre, Collège de France. Le conférencier, pris d'une folie soudaine, sort un couteau et se tranche les veines du poignet devant le public médusé. Ce n'est qu'un exemple. Si ces quatre dimensions du récit ont toujours été au fondement de toutes les légendes, la question de qu'est-ce qui est raconté, elle, est plus complexe. Longtemps, très longtemps, les auteurs ne ressentaient pas le besoin d'inventer des récits qui n'avaient jamais existé. Au contraire, ils puisaient dans le fond commun des mythes, des rites et des légendes ce qu'il fallait pour raconter à leur tour, soit pour enrichir le mythe d'un épisode né de leur imagination, soit pour changer la fin d'un personnage, finalement Iphigénie n'est pas morte, soit pour s'attarder sur un instant sorti du pli du récit. Les adieux de Andromaque à Hector, par exemple. En ce sens, l'Iliade et l'Odyssée ont été le réservoir infini du récit autour desquels Eschyle, Sophocle, Euripide ont articulé toute leur œuvre. En termes de récit, ils n'ont rien inventé. L'idée de faire autrement, d'inventer des histoires qu'on ne connaissait pas, ne leur passait même pas par la tête. Créer un personnage de toute pièce dont personne n'avait entendu parler, à travers une aventure que personne ne partage, était mais alors une incongruité absolue. Sophocle, j'ai été voir ta pièce là l'autre jour. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui s'appelle Jean-Édouard dans ta dernière tragédie ? C'est quoi l'idée de nous raconter les tergiversations identitaires et les misères sexuelles de ce même Jean-Édouard dont on n'a jamais entendu parler ? Bref, personne n'aurait compris. Ça ne signifiait pas qu'il n'y avait pas invention, bien au contraire. Homère lui-même montra qu'il était possible de composer un chant immémorial tout en livrant ses visions propres. Homère offrit d'ailleurs aux Grecs le grand Hector au panache, Hector dresseur de chevaux, Hector tueur de Grecs. Il leur offrit leur ennemi juré et réussit le tour de force d'en faire le plus beau personnage de l'Iliade, celui dont la mort allait bouleverser les Grecs. Comment ne pas verser de larmes lorsqu'au 24e chant, Priam, roi de Troie, entre dans la tente d'Achille pour se jeter à ses pieds et lui réclamer la dépouille de son fils Hector. Tout le monde retient son souffle quand Priam, trouvant la force, adresse au guerrier implacable et impeccable ses paroles ailées. « Souviens-toi de ton père, Achille, semblable aux dieux, et écoute ma plainte. J'avais un fils qui nous protégeait, nous et notre ville. » Hier, tu l'as tué. C'était Hector. Et c'est pour lui que j'arrive aujourd'hui aux nefs des Achéens pour réclamer sa dépouille. Respecte les dieux, Achille, et de moi, aie pitié. Et souviens-toi de ton père. L'émotion est si terrible que toutes les larmes coulent. Elles coulent à la fois pour Achille, elles coulent à la fois pour Priam, elles coulent à la fois pour Hector. Et elle coule des yeux de chacun, car alors chacun songe à ses propres morts et ses propres douleurs. Et des millénaires plus tard, les larmes coulent toujours à l'émotion des familles israéliennes à qui l'on remet les dépouilles de leurs enfants morts en otage, tout comme celles des Gazaouis enterrant au milieu des ruines ceux des leurs. De mort en mort, de sépulture en sépulture, d'horreur en horreur et de barbarie en barbarie, comment ne pas se souvenir de cette idée si chère à Jan Patočka, qui, en ses essais hérétiques, affirmait alors que le long du fil du temps, la seule solidarité qui vaille la peine de mourir pour elle, c'est la solidarité de tous les ébranlés. La solidarité appuyée contre l'humanité de nos ébranlements qui veut que nous pleurions tous pour nos morts et que, qui que nous soyons, qui que nous soyons. Nous sommes chacun un chagrin potentiel pour ceux qui nous aiment. Et même le dictateur le plus sanguinaire aura quelqu'un pour le pleurer à l'instant de sa mort. C'est ainsi. Atteindre cet instant, là où l'on peut voir l'invoyable, atteindre ça, quand on voit l'invoyable, l'instant de l'apocalypse, de la révélation, c'est cela la seule cible de l'écriture, d'une manière ou d'une autre, cachée ou dévoilée. Le théâtre, lieu d'où l'on voit, offre cette possibilité de voir l'indicible, et le ralentissant nous permet de le nommer. L'objectif pour les Grecs n'est donc pas d'inventer de nouvelles histoires, mais de laver les douleurs par le vent cathartique de nos récits communs. Et d'ailleurs, à quoi bon inventer de nouvelles histoires si celles que nous connaissons nous offrent la possibilité de créer un rapport de connivence, d'appartenance entre nous ? Nous ne sommes pas propriétaires des récits. Nous buvons à leur fontaine et nous racontons ce que nous éprouvons à boire cette eau magique. Qu'est-ce que nous ressentons à boire cette eau ? On n'invente pas l'eau, mais nos sensations sont à nous. L'inventivité est ailleurs. Lorsque Sophocle raconte l'histoire de Œdipe, tous les spectateurs en connaissent déjà la fin, tous. Personne ne se demande, mais comment est-ce que ça va finir ? Il a tué son père, il a couché avec sa mère, voilà, tout le monde le sait. Mais Sophocle instrumentalise cette connaissance que le public a du récit, et alors il le rend complice du récit en faisant d'Œdipe l'enquêteur inconscient de son propre crime. C'est vraiment génial. Le public est alors tenu en haleine non pas par la révélation des crimes qu'il connaît par cœur, mais par l'instant qui approche et qui approche et qui approche où Œdipe va découvrir que c'est lui le criminel qu'il recherche. Lorsque cet instant arrive, le spectateur est doublement bouleversé par ce qui arrive à Œdipe et parce qu'il est impuissant à le sauver. Il a envie de lui dire « mais doucement, doucement, ne va pas vite vers la connaissance ». Bouleversé aussi parce qu'il voit devant lui un personnage aveugle à sa condition et donc dès lors, chacun peut se demander à lui-même « Mais moi, à quoi suis-je aveugle ? À quoi suis-je aveugle ? Qu'est-ce qui est là et que je ne vois pas ?» Ce recours au fond commun a duré des siècles. Et on a l'impression qu'il a fallu attendre Copernic et Galilée et la révélation de ne pas être le centre de l'univers. Il a fallu attendre Christophe Colomb et la révélation que des civilisations entières ont vécu et se sont développées loin de la chrétienté pour que la magie d'un monde amorce son effondrement et que l'Occident, passant de l'enfance à l'adolescence, se demande « Mais enfin, qu'est-ce que c'est la magie ?» Et puis d'abord, c'est bien beau le collectif, mais moi là-dedans, qui suis-je ? Et pourquoi j'existe ? Et puis d'abord, être ou ne pas être, parce que bon... Surgissant comme le signe d'une modernité, Hamlet et Don Quichotte, solitaires, déconnectés du collectif, lèvent les yeux vers un ciel qui soudain leur apparaît entièrement vide et effroyablement silencieux et monstrueusement indifférent. Première réplique de la pièce Hamlet de Shakespeare. Première réplique. « Qui va là ?» Personne répond. C'est une reprise lapidaire par Shakespeare d'une des plus célèbres répliques de l'Électre de Sophocle écrite quelques deux millénaires plus tôt. Mais où sont les foudres de Zeus ? Où est le soleil flamboyant si, à la vue de pareils crimes, il reste sans agir dans l'ombre ? Qui va là ? Et personne ne répond non plus. D'Hamlet et de Don Quichotte surgiront cinq siècles où le génie littéraire reconstruira à travers des histoires nouvelles, inventées par les poètes et les écrivains, une vision sublime de l'humain, questionnant le silence de l'univers, jusqu'à ce que tout cela s'effondre à nouveau dans la cloaque de la Shoah. Alors depuis, cas un, coupable, nous avons commencé à renouer avec le récit, avec des lettres de poussière et un alphabet en carton. Mais nous avons renoué tout de même, et avec toujours les mêmes dimensions, car que ce soit Homère ou aujourd'hui l'adolescent dans l'intimité de sa chambre qui s'essaye à ses premiers récits, toute écriture est toujours enfermée dans le labyrinthe de ces mêmes dimensions, lieu, temps, sujet, événement. Un jour, quelqu'un, quelque part, lui est arrivé quelque chose. Appelons cela fiction, appelons cela science-fiction, autofiction, récit, biographie, autobiographie, sequel, préquel, qu'ils s'écrivent au jeu, au tu, au il, qu'ils s'écrivent au tout, au tous, en miel ou en huile, veillant à l'intelligence artificielle ou gravé à coups de burin, qu'ils soient un plagiat ou non, une invention ou non, un prix Nobel ou non, un récit qui tienne compte des douleurs des victimes ou non, qu'ils soient moralement acceptables ou détestables, appropriation culturelle ou non, woke ou non, qu'ils soient condamnables ou politiquement corrects, le fruit d'un esprit malade, qu'ils soient juste ou injuste, une croûte ou un chef-d'œuvre, aucun récit n'échappe à ce trou noir formé par le cercle impitoyable du sujet, lieu, temps, événement. Un jour, quelqu'un, quelque part, lui est arrivé un truc. Si nous savons où nous sommes, si nous savons quand nous sommes, Si nous avons une idée vague de qui nous sommes, nous ne savons pas ce qui va arriver. Un jour, quelqu'un, quelque part, lui est arrivé quelque chose. Aujourd'hui. L'Europe est en danger de fragmentation soumise aux forces de pression exercées sur elle par l'axe Amérique-Russie. Sujet. Que va-t-il se passer ? Quelqu'un, quelque part, un jour, lui est arrivé quelque chose. Une civilisation en Europe, au XXIe siècle, lui est arrivé quelque chose. Comment va-t-elle porter son destin ? Ou, pour le dire autrement, pourquoi le mal triomphe si impunément ? Pourquoi le sanguinaire sourit, heureux de ses traîtrises ? Comment continuer à croire en quelque justice qui soit, si celle-ci, hébétée, reste à regarder sombrer, sans rien faire, toute idée d'humanité ? Car oui, qui va là ? Qui va là et reste muet ? Et où sont les foudres de Zeus ? Où est le soleil flamboyant si, à la vue de pareils crimes, il reste sans agir dans l'ombre ? Alors vous voyez, vous voulez écrire un roman ? Rien de plus simple, courez-y. Un jour, quelqu'un, quelque part, lui est arrivé quelque chose. Si vous n'avez pas d'imagination, ce n'est pas grave. Prenez le RER, asseyez-vous, prenez un passager, au hasard, et faites-en un meurtrier. Il rentre chez lui, il assassine sa femme. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais fouillez dans vos tréfonds, vous trouverez pourquoi. Nous sommes tous des meurtriers. Certains le deviennent, mais nous le sommes tous. Alors ne cherchez pas midi à 14h. Ils ont cheminé avec lui le jour durant jusqu'à Emmaüs avant de le reconnaître. Vous aussi, vous cheminez avec le meurtre sans le reconnaître en vous. Oui, mais, oui, d'accord, mais je ne sais pas écrire. Mais on s'en fiche. Écrit, ce sera de l'écriture. C'est simple, il ne reste plus qu'à faire. Il ne faut pas grand-chose. Regarde, longtemps je me suis couché de bonne heure. Et voilà, on peut tenir 2000 pages avec ça. Un matin, au sortir de rêves agités, Grégor Samsa se réveilla dans son lit métamorphosé en un horrible insecte. Kafka. Aujourd'hui, maman est morte. Eh bien, vous gagnerez le Nobel avec ça. Tout est toujours dans la première phrase. Même ceux qui veulent faire les malins, hein, à un moment ou à un autre, ils rentrent dans les rangs. Et, lieu, temps, sujet, verbe. Nous ne savons pas comment créer les conditions qui rendront un voyage habité à Mars possible. Alors, pour ce qui est de sortir du système solaire, il faudra des millénaires sans doute pour que l'humanité puisse aller au-delà de 2 secondes-lumière de la Terre. Nous sommes condamnés à prospérer autour de cette pierre bleue dans l'infinie immensité de l'univers. Ainsi, comment espérer sortir du cadre du récit et aller au-delà de cette dictature du lieu, temps, sujet, verbe si nous ne savons toujours pas comment rejoindre Mars sans liquéfier les corps des voyageurs ou les brûler par la violence des radiations ? Un jour, quelqu'un, quelque part, lui est arrivé quelque chose. C'est tout. Mais dans l'infiniment petit, dans cet infiniment petit du sujet, verbe, lieu, temps, ben se cache l'infiniment grand. Au monastère des sœurs Clarisse, de Rivière-du-Loup, le long du fleuve Saint-Laurent, c'est au Québec, vécut cloîtrée 50 années durant sœur Panton. Vive, joyeuse, pleine de curiosité, passer une heure en sa compagnie, c'était passer une heure avec une amie avec qui il était possible de discuter de tout. Politique, culture, création, amour. On pouvait raconter des blagues, on pouvait parler de nourriture et échanger un mot ou deux sur la manière de se préparer pour prier ou celle pour monter sur scène et se rendre compte que s'adresser à Dieu ou jouer au théâtre relevait presque de la même concentration. Alors comment une femme, entrée au cloître à l'âge de 18 ans et qui n'en est jamais sortie durant 50 années, pouvait donner à ce point l'impression d'être présente au monde dans tout ce que ce monde pouvait avoir d'immense. Comment faisait-elle pour avoir l'air si peu déconnectée de l'extérieur alors qu'il n'y avait jamais, qu'elle n'y mettait jamais les pieds et qu'Internet, à l'époque où j'ai fait sa connaissance, n'existait pas encore ? Ça ne te manque pas d'aller dehors ? Je ne sais pas, d'aller à Rome, d'aller voir le fleuve, d'aller voir les baleines, ça ne te manque pas une crème glacée ? À la question que j'ai fini par lui poser, elle s'était mise à rire et me dit « Alors, comment je vais faire pour t'expliquer ça sans que tu me prennes pour une folle ?»« À l'intérieur du cloître, me dit-elle, il y a un jardin dont on prend soin tous les jours. Je ne peux pas te le montrer parce que tu ne peux pas rentrer. Mais imagine. Eh bien, figure-toi que, de ce jardin, je sais où se trouvent les fourmilières. Et à force de les observer, j'ai fini par reconnaître les fourmis et les différencier les unes des autres. Elles ont leur caractère. On s'attache à toute forme de vie à partir du moment où on lui accorde un peu d'attention. Mais surtout, vois-tu, j'ai fini au fil des années par connaître jour par jour la manière avec laquelle le soleil éclaire ce jardin. C'est quoi ta date de naissance, d'anniversaire ? 16 octobre. Eh bien, alors écoute, en octobre, le soleil éclaire d'abord l'érable qui se trouve du côté de la chapelle. avant de toucher le grand bouleau. Un peu avant midi, tu le vois rejoindre les roseaux, et ça va lui prendre bien 2 heures pour les inonder tous de sa lumière. Et avec l'après-midi, c'est le moment que je préfère, il frappe les rosiers sauvages qu'on a plantés l'année de mon arrivée ici, et qui sont vers la mi-octobre encore en fleurs. C'est extraordinaire, je t'assure. Il touchera encore le peuplier, mais à peine, à partir du 22 octobre, il ne l'effleurera, et pour voir son dernier rayon du soleil, il faut monter sur une chaise que j'ai placée contre le mur du réfectoire. Tu vois, je n'aurai pas assez de ce qui me reste de vie pour finir par connaître ce jardin. Alors je pense très très souvent à Sir Pynton lorsqu'il me faut entrer dans l'écriture d'un texte, parce que c'est comme entrer dans un jardin dont il faut connaître le chemin de lumière, le refaire encore et encore et encore et encore, l'arpenter pour en connaître jusqu'à l'entrée de ses fourmilières, ne pas aller trop vite vers la connaissance et garder alors sa mesure. Rien ne m'oblige à tout connaître et sortir de mon cloître de silence. Rien ne m'oblige à tout lire. S'allonger sous un arbre suffit pour rencontrer l'éternité. Sophocle n'a jamais lu Shakespeare. Shakespeare n'a jamais lu Virginia Woolf. Virginia Woolf n'a pas lu Virginie Despentes. Et Virginie Despentes ne lira jamais l'auteur pas encore né qui, dans 1000 ans, portera vers nous un regard de compassion envers nos aveuglements. Il est donc possible de vivre sa vie en tournant autour d'un seul jardin. Il suffit de s'adjoindre donc un angle de vision et de se dire « Voici le lieu d'où je regarde, mon théâtron. » Ce sera depuis ce tertre qu'on observera le monde. Celui que j'ai choisi donne à voir une guerre civile, des exils, des tentatives désespérées de réconciliation. C'est le cloître où je me trouve et à qui me demande « Mais comment fais-tu pour ne pas sortir ?» Je peux à mon tour lui faire la réponse de Sir Pynton. Je mourrai bien avant d'avoir réussi à faire le tour de ce jardin. Voir, on l'a dit, peut se révéler être un danger mortel. Mais ce qui le rend macabre est la vitesse avec laquelle il nous jette sur l'objet qui sort de l'ombre. C'est pourquoi des 4 dimensions qui forment le visage du récit, espace, temps, sujet, verbe, le temps est celui qu'il faut manipuler avec le plus de soin, celui qui exige une attention d'autant plus particulière qu'il est plus évanescent que l'espace, plus fugitif que le verbe, il est plus insidieux que le sujet. Crayon à la main. On se trouve souvent interdit devant la blancheur de la page. Blanc de la page blanche, d'accord. Mais c'est quoi? C'est parce qu'une révélation est là, dans la blancheur de la page, et elle attend qu'on la confronte. La page blanche, comme labyrinthe dans lequel il faut entrer. C'est ça, une page blanche. Mais page blanche aussi comme membrane de la magie qu'une monstruosité s'apprête à pénétrer pour nous atteindre et nous pénétrer jusqu'au noyau de notre être. Mais cette fois-ci, on est prêt à l'accueillir, on l'attend de pied ferme. Page blanche pour rejouer donc l'instant du traumatisme. Non pas comme une échappée thérapeutique, une thérapie, non, mais comme un affrontement sur le terrain de la magie et de la beauté. Façon d'éventrer la monstruosité pour la transformer en ce qu'elle est le plus, la vie. Toi, exécrable dévastation de tout ce qui est fragile, toi, la chienne haineuse, je ferai de toi, par la force de l'écriture, la source de mes plus grands bonheurs. La prendre au piège de l'écriture. Viens, crève la page blanche, je t'attends, salope. C'est cela, une page blanche. Le portail d'où va surgir l'horreur qui nous a jadis violés. La page blanche n'est donc pas un poids, mais au contraire, c'est l'attente du combat, la promesse tenue il y a longtemps lorsque le cœur en ruine, enfant, après le viol, après le meurtre, après le massacre, l'écriture elle-même est venue nous relever, debout, debout, elle nous a dit, et je te fais la promesse de t'aimer toujours, moi, l'écriture qui écrira en toi, je ne t'abandonnerai jamais, relève-toi, et que chaque fragment de tes ruines soit une étincelle de récit et de beauté, le temps viendra, sois patient, sois patient. Ne laisse personne dire après ton passage « Voilà qu'il s'en va, l'enfant au regard grave, il ne fut pas généreux, son cœur est resté fermé. » Non, lève-toi, écris et fais confiance. Les récits, quelqu'un, quelque part, un jour, lui est arrivé quelque chose, sont en route, ils viennent vers toi. Mais cela, on l'a oublié. L'école, la raison, la rationalité, tout ça nous l'a fait oublier. Cela s'est transformé en tétanie de la page blanche. Mais qu'est-ce qui produit cette tétanie en nous, si ce n'est le temps dans lequel il faut pénétrer à présent pour retrouver les trésors de la promesse faite par l'Écriture, lorsque de notre intégrité il ne restait qu'une immense humiliation ? Ce que j'ai à écrire, qui est si douloureux, comment faire pour qu'il se déroule sous mes yeux sans que je n'en sois réduit moi-même en poussière ? Et 1000 fois être réduit en poussière plutôt que de le retenir tout le temps en moi, que ce soit au passé, au présent, à l'imparfait ou au futur. Ce qu'on écrit est toujours écrit au présent, puisqu'on écrit. C'est le présent de notre action, on écrit. Donc c'est le présent tout le temps. En ce moment, je suis en train de parler, c'est le présent de mon action. Quand j'écris, qu'importe si l'action est au passé, mon présent est l'écriture. Ce qui n'est pas écrit, ce qu'on n'écrit pas, il n'existe pas, il n'est pas écrit. Mais il faut l'écrire. Or, c'est une loi implacable. Ce qui arrive pendant l'écriture à l'auteur, ce qui lui arrive, c'est précisément ce qui arrive pendant la lecture au lecteur. Si l'auteur pleure, le lecteur pleurera. Si l'auteur est terrifié, le lecteur sera terrifié. Si l'auteur triche, le lecteur est trompé. Et si l'auteur maîtrise trop, le lecteur sera frustré. Le temps de l'écriture ne peut donc pas être l'exécution de ce qu'on a écrit dans sa tête la veille en se disant « demain, je vais écrire ça ». Non, le temps de l'écriture, c'est l'écriture elle-même. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, vous pouvez élaborer tous les chemins dramaturgiques pour vous rassurer. Si, au moment d'écrire, vous vous préoccupez davantage d'appliquer ce que sagement vous vous êtes raconté la veille, alors ne dites pas que vous écrivez, dites que vous fabriquez des bidets. Un bidet, c'est compliqué. Il ne doit pas fuir. Il faut qu'il soit fait avec des bons matériaux. Et cela demande de la préparation. Dès lors, sa fabrication n'est que l'exécution de ce qui a été préparé. Ça, c'est pour le bidet. Pour l'écriture, c'est tout l'inverse. L'écriture n'existe que dans le temps de l'écriture. Et tout ce qui s'est passé en amont n'a aucune importance. Si celui qui écrit, au moment où il écrit, n'est pas effondré de rire devant un mot d'esprit, surgi dans la bouche du personnage, au bout du crayon, si cela ne lui arrive pas, au bout du crayon, comme une surprise, comme une chose à laquelle il ne s'attendait pas, celui qui, des années plus tard, le lira n'aura pas le moindre frémissement au bord des lèvres. Si celui qu'on nomme l'auteur n'est pas lui-même saisi par la révélation qu'il abat sur le personnage dont il raconte l'histoire, le lecteur ne ressentira pas un choc au moment où il arrivera à ce passage. On ne transmet que ce qu'on éprouve dans le temps de l'écriture. Écrire, c'est donc rester rivé au présent de ce qui surgit et qui ne surgirait pas sans le silence dans lequel est plongé l'écrivain à l'instant de l'écriture. Il y a, dirait-on, un lien spirituel entre la main qui écrit et le cerveau. Lorsque ces deux-là sont connectés dans le silence de l'écriture, le temps se met en marche et les images montent dans le ciel de l'écriture. C'est une expérience que l'on fait à chaque fois. Lorsque la bascule se réalise, c'est-à-dire lorsque l'écriture se déroule au fil du présent, avec une acuité que celui qui écrit n'a plus l'impression d'écrire, mais de chuter au fil des mots, alors le temps ne passe plus de la même façon. Il ralentit pour celui qui écrit. Et lorsqu'il relèvera la tête, il risque de trouver autour de lui un monde plus âgé que celui qu'il avait quitté au moment où il s'est plongé dans les arcanes de l'écriture. C'est une sensation très concrète. On s'installe à sa table à 13 heures, on commence à écrire, on bascule dans le présent de l'écriture, on y plonge pour une durée que l'on estimerait comme ça à 15 minutes, on relève la tête et 3 heures viennent de passer. Le lieu où l'on écrit ne se mélange jamais au lieu que l'on décrit, même s'il est le même. Car la réalité des mots ne peuvent pas rejoindre la vérité des espaces où nous nous trouvons. Si je décris le RER A entre Nation et Nogent-sur-Marne avec la meilleure des précisions des paysages traversés, ce ne seront que des mots, ce ne sont que des lettres qui tenteront de faire surgir dans l'esprit du lecteur une réalité qui, pour partager une époque et une culture, lui dira à peu près ce que je vais lui raconter. Mais à un visiteur venu d'une époque lointaine qui ne sait pas même ce que signifie le mot RER A, cela n'aura aucune réalité pour lui, et même Saint-Léger en personne ne pourra pas se figurer ce que signifie la phrase « entre Nation et Boissy-Saint-Léger ». Il faut pour cela 1000 explications. Par contre, le temps, lui, dans son écoulement, dans sa régularité, le temps reste le même pour tous, qu'importe l'époque. Nous sommes tous dans le temps. Le temps de l'écriture renvoie toujours à des temps multiples et différents. On le ralentit, on l'accélère, on le met en cercle ou en flèche, on le compose, on le conjugue, on l'arrête ou on l'interrompt. Toutes ces dimensions renvoient sans cesse à un angle mort, à un aveuglement. Dans les plis du temps, nous avançons immanquablement vers l'instant de la mort qui est, au fond, la plus grande des révélations. Le temps nous conduit peu à peu vers elle. Et cela, tout le monde se reconnaît en cela, car nous partageons cette certitude. Or, et c'est là le plus grand paradoxe, si la mort est l'instant de l'apocalypse absolue, cet instant où tout enfin se révèle et se dévoile, cet instant où enfin il nous est donné de voir l'invoyable, cet instant où tout se montre à nous dans sa profondeur et sa richesse, si la mort, en cet instant où on a accès à la connaissance et où enfin on sait, où enfin on voit, c'est aussi précisément celui où nos yeux se ferment pour de bon, emportant avec eux toutes les images qui ont fait se joindre Brésil et Ghana, effaçant toutes les figures de nos amours et de nos rêves, toutes les visions de nos intimités et de nos plus grandes floraisons. On entre alors en tremblant dans l'inconnu, avec le sentiment d'avoir été au bout de ce qui nous a été donné de vivre, arrivé au moment où enfin l'identité enfin se fixe, s'arrête, cesse de bouger, libéré en cela et pour de bon du poids de l'existence et son corollaire qu'aura été le combat permanent pour savoir qui nous sommes dans le dépassement féroce qu'exige de toute vie digne de ce nom la politique du verbe voir. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.